Vas-tu parvenir du fond de l'univers un océan d'amour qui envahit la terre? J'ai interrogé les sages et les poètes du
Bien, bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. On va faire une lecture dans Jean chapitre 16, versets 12 à 28. Une longue lecture, mais c'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples : j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, mais que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez, et parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, on ne sait pas de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Amen. Je vous assure, frères et sœurs. Demain, nous entrons dans le dernier mois de l'année. Vous savez que chaque fin d'année, le Seigneur me donne une prophétie. En général, on l'écrit et on la consulte pendant l'année. Et là, Michou et moi, nous avons relu celle qui concerne cette année encore. Eh bien, c'était bien. C'était bien. Et là, le Seigneur commence à me parler au sujet de ce qui va arriver. Alors, ouvrez bien vos oreilles, parce que ce soir, ce n'est pas une prédication courante. Il y a un message prophétique là-dedans, mais je ne vais pas vous dire quand ça va être prophétique. C'est à vous de le reconnaître. Vous savez tous que Jésus ne parlait pas de la même manière à ses disciples et aux gens qui venaient l'écouter de temps en temps. Il faisait ça parce que il voulait former des hommes qui allaient pouvoir continuer sur la terre ce qu'il avait lui-même commencé. Et puis, après avoir donné sa vie sur la croix, après être ressuscité, après être remonté au ciel, il a immergé les siens, ses disciples, dans le Saint-Esprit. La relation devenait encore plus distincte. C'était encore plus différent qu'avant. Avant, déjà, il y avait une différence entre les gens qui venaient l'écouter de temps en temps et les disciples. Mais là, maintenant, les disciples étaient les seuls à pouvoir voir Jésus. Il a commencé dans la chair à ne se montrer qu'à eux d'abord. Et ensuite, il s'est montré à eux en esprit. Il s'est révélé à eux en esprit. Les premiers disciples ont donc vécu deux périodes différentes. Premièrement, le temps où ils voyaient Jésus avec leurs yeux de chair et où ils l'entendaient avec leurs oreilles, mais ils ne comprenaient pas toujours très bien ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient. Pourquoi ? Ben parce qu'ils n'étaient pas encore nés d'en haut. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Vous savez, quand on dit « né de nouveau », l'expression n'est pas tout à fait correcte. Ce qui serait correct, c'est de dire « né d'en haut ». Et puis, ils étaient ni nés d'en haut, ni immergés dans le Saint-Esprit, ce qui est encore une autre chose. Alors, à cette époque-là, quand il était sur terre avec eux, Jésus les prenait à part pour leur expliquer certaines choses, comme par exemple, vous trouvez ça dans Matthieu, chapitre 13, verset 36. Avant, il avait parlé à la foule, et le message était exotérique, c'est-à-dire destiné à tout le monde. Et puis ensuite, il les prenait à part et il leur donnait un message ésotérique, c'est-à-dire donné, révélé seulement à ceux qui sont initiés, ceux qui sont les disciples. Alors quand on dit ésotérique, on pense à diablerie chez nous, mais il y a un message ésotérique, c'est un message qui est un message réservé aux initiés. Par exemple, si je vais là, sur votre lieu de travail et que je vous entends parler avec vos mots techniques du travail que vous connaissez bien, ça va me paraître quelque chose de complètement ésotérique. Parce que vous avez eu un enseignement spécial au sujet de votre travail et vous en parlez d'une façon comme quelqu'un qui est initié, d'accord ? Et pas comme monsieur tout le monde. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Il n'y a pas de secret, mais il y a des choses sacrées qui sont réservées aux siens qui le suivent, qui ont renoncé à tout, qui ont tout abandonné pour pouvoir le suivre. Et puis est arrivé un événement marquant, on va le lire dans Jean chapitre 20, versets 22-23. Jean 20, 22-23. Quand il eut dit cela, Jésus venait de ressusciter, il leur montra ses mains et son côté, donc qui était percé, les disciples furent dans la joie. En voyant le Seigneur, Jésus leur avait dit, vous ne me verrez plus, vous serez dans la tristesse, puis après, vous me verrez, vous serez dans la joie. Ben, ça y est, c'était accompli. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est-à-dire de la même manière, avec les mêmes pouvoirs. Alors il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » À partir de là, le Saint-Esprit les animait. Ils étaient nés de nouveau, nés de Dieu, c'est-à-dire nés d'en haut, et ils étaient en Jésus-Christ dans les lieux célestes, et Jésus-Christ était en eux, ici-bas sur la terre. Ils étaient immergés dans les choses de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, dans la sainteté de Dieu, avec le pouvoir de Dieu, et ce pouvoir leur était donné. Lequel ? Eh bien, il leur était donné le même pouvoir qu'à Jésus. Et ce pouvoir, il dit, c'est le pouvoir de pardonner. Vous allez dire, c'est quand même étonnant. Alors, on trouve ça dans Marc 2, 6, 12, et vous allez comprendre. Marc 2, 6, 12. Jésus vient de guérir un paralytique, et puis, là-dessus, il y a des religieux qui sont là, et qui sont assis, et qui disent entre eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. » Parce que Jésus... Non, il n'avait pas encore guéri le paralytique. Jésus, il dit, il dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et ces hommes religieux disent, mais ils blasphèment. Parce qu'en réalité, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, j'ai sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'était pas seulement qu'ils avaient vu un paralytique guéri, mais ils avaient vu que Dieu cautionnait ce que Jésus disait. Il disait, j'ai le pouvoir de pardonner. Alors, bon... Il nous dit de pardonner, et on pardonne ceux qui nous offensent. Même les païens pardonnent. Ça arrive très souvent que des païens se pardonnent entre eux. Un païen fait une méchanceté, et ben un autre païen qui est victime va pouvoir le pardonner. Il n'y a pas que Dieu seul qui peut pardonner. Même les païens pardonnent, vous comprenez? Seulement, quand moi je pardonne le frère un tel ou la sœur une telle au sujet d'un péché qu'elle a fait... C'est un pardon qui est entre elle ou lui et moi, mais Dieu n'est pas tenu de pardonner parce que moi j'ai pardonné. C'est toute une autre histoire. Mais à partir du moment où quelqu'un est immergé dans l'Esprit de Dieu, envoyé tel que Jésus a été envoyé, il a le même pouvoir, c'est-à-dire de pardonner au nom du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que si moi je pardonne quelqu'un, il est tenu pour pardonner devant Dieu. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous accordez le pardon à quelqu'un, c'est comme s'il n'avait jamais commis le péché. Mais si vous retenez le péché contre la personne, Dieu le tiendra compte et le jugera pour ce péché qu'il a commis. Vous voyez? Parce que vous êtes une personne comme Jésus, envoyé de la même manière, avec le même pouvoir divin, celui de pardonner au nom de la part du Dieu Tout-Puissant. Ce que Jésus avait, vous l'avez aussi. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit comme les disciples l'étaient, est-ce que vous avez saisi la différence? À partir de là, le Saint-Esprit donc les animait, et ils avaient le même pouvoir que Jésus-Christ, homme. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 4, 17, je crois, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Mais ça n'était pas suffisant, ça, d'avoir reçu ce souffle. Il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et maintenant, vous pouvez aller pardonner ou retenir les péchés. C'était pas suffisant. Ça, c'était déjà extraordinaire. Mais il voulait faire beaucoup plus pour les siens. Alors, donc, comme je vous disais, il les a immergés dans le Saint-Esprit. Lui en nous, nous en lui. Et à partir de là, il ne poserait plus jamais de questions. Jean 16, 23, on l'a lu. Vous ne me poserez plus de questions. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les conduisait dans toute la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réellement remplis du Saint-Esprit. Au sujet des choses qu'ils ne pouvaient pas supporter avant, voilà que tout à coup, ils étaient capables de les supporter, capables de les comprendre, même sans poser de questions, ça leur était révélé. Question, est-ce que tous ceux qui se sont réclamés de Jésus-Christ au cours des siècles se tenaient dans cette même position qu'eux? La réponse est évidemment non. Pourquoi? Parce que alors, n'est-ce pas, ils ont trouvé, ils disent, oh, mais c'était Jésus, c'était spécial, et puis les 12, hein, c'était les apôtres, c'était spécial, mais nous, on n'est pas la même chose. Exactement, vous n'êtes pas la même chose parce que vous êtes des désobéissants, alors vous ne recevez pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Ceux qui désobéissent n'ont pas le Saint-Esprit. Ne sont pas conduits dans toute la vérité. Vous voyez, mes frères et sœurs? Voilà pourquoi les religieux sont dans l'erreur. Ah, ils font des bonnes choses très souvent, mais c'est conduit dans l'erreur. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, premièrement, les apôtres avaient entendu Jésus les enseigner pendant 3 ans et demi environ. Or, Jésus est remonté au ciel, ils ont été immergés dans le Saint-Esprit, et l'Esprit Saint leur rappelait les choses que Jésus leur avait enseignées avant, quand ils étaient ensemble sur terre. Vous trouvez ça dans Jean 14, 26. Comment ils ont fait pour se rappeler tout ce que Jésus a dit? C'est le Saint-Esprit qui leur a rappelé, qui leur rappelait sans cesse. Mais il n'a pas fait que de leur rappeler les choses que Jésus leur avait déjà commencé, que Jésus avait commencé à enseigner, à dire. Il leur a appris des nouvelles choses, des choses qu'avant ils ne pouvaient pas supporter. Vous trouvez ça dans Jean 16, 12. Ça signifie bien que pendant que Jésus était sur la terre, tout n'avait pas été révélé. Et que c'est le Saint-Esprit qui allait conduire les disciples qui étaient obéissants et remplis donc du Saint-Esprit dans toute la vérité et ainsi compléter la révélation. Parce qu'elle n'était pas complète. Jésus n'avait pas donné la complète révélation. Alors pratiquement, les apôtres ont écouté ce que le Saint-Esprit leur enseignait et puis ils l'ont écrit. Ils ont écrit toute la révélation. C'est-à-dire que ce qui est écrit là, c'est révélé. Même les choses que l'Église ne comprend pas, par exemple au sujet du baptême pour les morts, ils comprennent pas, mais c'est écrit là, c'est révélé. Maintenant, il s'est passé quelque chose dans l'Église, c'est que toutes les révélations sont là, c'est vrai, mais beaucoup ne les ont pas comprises au cours des siècles, les ont perdues. Personne ne peut comprendre si ce n'est par le Saint-Esprit qui a révélé ces choses aux premiers disciples. Et voilà pourquoi il y a tant d'égarements dans les églises aujourd'hui. Les dirigeants ont oublié, ont abandonné leur premier amour. C'est comme ça que ça a commencé dans l'âge d'Éphèse. Ensuite, ils ont perdu la foi. Ils ont commencé à avoir foi plus dans leur organisation ecclésiale que dans l'organisation du Saint-Esprit. Ensuite, ils ont évidemment désobéi au Saint-Esprit puisqu'ils n'étaient plus conduits par le Saint-Esprit mais par un bureau central ou par un pape. Ils ont été aveuglés afin de suivre une voie de ténèbres. C'est ce qui est arrivé. Et de nos jours, nous vivons aujourd'hui le temps du rétablissement de toutes choses parce qu'il faut que toutes choses soient rétablies avant que Jésus revienne. Alors, bien des choses ont été révélées dans notre temps, mais peu les ont reçues. C'est pour répéter l'histoire comme elle a commencé. Le Saint-Esprit est attristé par cela. C'est vrai, mais en même temps, il sait que cela devait arriver comme cela. Est-ce que le Saint-Esprit est comme un homme pour se lasser, se fatiguer et dire, bon, ben, ma journée est assez, maintenant, ça suffit, je mets la clé sous le paillasson, c'est une bande d'ignares au cou raide, ils veulent rien comprendre, ben, j'en ai marre. Je les laisse tomber. Non. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Pas du tout. Mais par contre, il a décidé de ne plus vilipender la connaissance. Aux yeux de Dieu, notre ego, l'ego, n'offre aucune possibilité d'épanouissement. Pourquoi? Parce que l'ego, il a la volonté de tout maîtriser sans amour. Les gens qui venaient écouter Jean-Baptiste, venaient pas l'écouter avec un cœur contrit. Il venait l'écouter pour se réjouir, nous dit la Bible. Il venait l'écouter pour se réjouir à un moment à la lumière, Jean 5, 35. Alors il venait, il se réjouissait à la lumière. Ah, c'est beau la lumière. Ah, c'est merveilleux, alléluia. Ah, il va falloir qu'on y aille. Alors, à bientôt. Ils repartaient dans leurs ténèbres. Puis après, ils disaient, ah, il y a encore une réunion de Jean-Baptiste, on va y aller. Oh, on va se réjouir dans la lumière. Ah, oh, ce qui fait du bien. Oh, c'est inspirant ce qu'il dit. N'est-ce pas comme ça que ça se passait? Bien sûr. Et la grande majorité des gens qui venaient écouter Jésus faisaient la même chose et venaient avec la même disposition de cœur pour recevoir quelque chose, pour prendre quelque chose. Et Jésus leur dit, c'est pour satisfaire votre ego, c'est-à-dire c'est parce que je vous nourris, c'est parce que je vous console, c'est parce que je vous donne à bouffer, c'est parce que je vous guéris, c'est parce que je vous donne quelque chose, parce que ça vous apporte. Ah, ça m'est un très grand apport de venir vous voir. Et c'est ainsi qu'on voit de plus en plus des chrétiens qui fréquentent des séminaires, qui ont pour thème quelque chose dans le genre de l'épanouissement spirituel des enfants de Dieu. Ils veulent faire des expériences avec le Seigneur. Ils veulent faire des expériences dans le monde illimité de la foi. Tant que l'ego n'a pas buté contre la découverte que le bonheur ne réside pas à recevoir, mais que le bonheur se trouve dans l'acte de donner sa vie, eh bien, ces gens-là ne feront que de s'éloigner de plus en plus du Saint-Esprit, même s'ils ont une connaissance colossale de la parole de Dieu. Parce que c'est pas animé par l'Esprit. Vous savez, donner, ça met deux personnes en relation. Vous avez le donateur et puis vous avez le destinataire. Celui qui donne sa vie, c'est-à-dire qui renonce à sa vie, c'est-à-dire qui renonce à la vivre comme il veut, eh bien, il découvre le bonheur de réussir à créer du bonheur. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus enseigne de renoncer à tout. C'est pas pour nous embêter. C'est pas pour nous embêter que Jésus dit arrête. Arrête, laisse tomber tout ça, arrête, abandonne tout ça. C'est même pas pour nous mettre à l'épreuve. Qu'il nous dit vends tout et suis-moi, c'est pas pour nous mettre à l'épreuve. Il sait très bien de quoi on est formé. Mais c'est parce qu'il veut nous apprendre à découvrir le bonheur de réussir à créer du bonheur, comme lui créait du bonheur. Voilà pourquoi Jésus enseigne ces choses. Parce qu'avant de l'avoir fait selon ses règles à lui, eh bien, on n'est pas protégé contre la perte de l'argent, on n'est pas protégé contre la perte de ce qui nous appartient, on n'est pas protégé contre la perte de notre réputation, on n'est pas protégé contre la perte de l'image de soi, on n'est pas protégé contre la perte de l'importance qu'on croit avoir. L'ego prend du plaisir à avoir tout cela et à amasser encore davantage de tout cela. Il suit son intérêt particulier tout le temps. Il n'éprouve pas d'amour. Il croit qu'il éprouve de l'amour, mais en réalité, il ressent beaucoup de choses, pas l'amour, c'est pas de l'amour. Ça peut être un immense plaisir, ça peut être une autosatisfaction, ça peut être même de l'attachement. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Dieu est amour, et l'amour divin est par nature désintéressé. Alors, Dieu ne peut pas donner plus de nos jours, il ne peut pas donner plus de nos jours, parce que la plupart n'ont pas la capacité de recevoir. Alors que faire? Que faire? Eh bien, Jésus est le modèle. Nous avons été envoyés comme il a été envoyé, avec le pouvoir qu'il avait, et il est notre modèle. Comment il a fait? Il a donné à ceux qui l'écoutaient ce qu'ils étaient capables d'écouter. Puis ensuite, il a donné à ceux qui avaient tout quitté pour lui un peu plus. Et puis après, il en est arrivé à les immerger en lui afin qu'ils soient un en toute chose. Vous voyez comment ça se passe? C'est avec émerveillement que j'ai reçu cette parole. Ce que Jésus va faire dès le début 2013, c'est cela. Il donnera à ceux qui ont. Matthieu 13, 12. Et aux autres, ben, ils végéteront avec ce qu'ils ont ou ce qu'ils croient avoir. Ils sont contents. Ils vivront encore des expériences. Mais les ténèbres vont aller en s'épaississant. Vous voyez, le processus continue. Ça ne s'arrête jamais. Ça continue. Au début, sur terre, la révélation donnée à ceux qui ont des oreilles faites pour entendre le Maître qui était avec ses disciples, puis ensuite la révélation venant du ciel, directement du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit dans lequel les vrais disciples sont immergés à cause de leur obéissance. Acte 5, 32, c'est pas parce qu'on est saint, c'est parce qu'on est obéissant qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on va dans des réunions de prière pour recevoir le Saint-Esprit qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est parce qu'on est obéissant. Et puis, la révélation écrite apparaît. Cette révélation écrite au sujet est très sujette à toutes sortes d'interprétations qui viennent de la part des désobéissants. Dans Romains 1, 21-22, il est dit « Car, ayant connu Dieu, ils l'ont connu, ils n'ont point glorifié Dieu comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, ils se sont glorifiés eux-mêmes. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mon église a fait ci, mon église a fait ça. » Et puis ils n'ont pas remercié Dieu, ils n'avaient pas un cœur humble. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été baptisé dans les ténèbres, immergé dans les ténèbres, baptisé dans le noir. Et ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Vous lirez, c'est exactement écrit comme je vous le dis. C'est exactement écrit comme je vous le dis. Et puis au temps marqué, nous savons que c'est en 1977, date qui marque le début de la fin du temps des nations, de l'Église dans les nations, Dieu révèle des choses sacrées qui n'ont encore pas brillé dans les nations. Vous vous rappelez comment ça s'est passé pour nous, comment le Saint-Esprit nous a révélé ces choses. Et puis les choses cachées deviennent de plus en plus en lumière, ça brille de plus en plus, jusqu'au point où, de nouveau, l'histoire se répète et les ténèbres s'installent. Et voilà, on y est, on est en plein dedans. Le message n'est plus cru, alors la révélation ne cesse pas. Non, elle ne cesse pas. Mais l'ordre est donné que la révélation ne soit communiquée qu'aux disciples. Pour notre part, voilà ce que j'ai reçu. Dès le vendredi 4 janvier 2013, les enseignements réservés aux disciples ne paraîtront plus sur notre site Révélation Bible. Seules les prêches du dimanche matin seront communiquées au grand public. Pour avoir accès aux autres messages, il faudra être un disciple consacré. Aujourd'hui se répète ce qui s'est trouvé dans Matthieu 13, 36, la foule est renvoyée. Ça fait partie du processus de l'enlèvement. Les événements se précipitent. Vous avez vu ? La Palestine maintenant, vous avez vu où ils sont? Ça s'est passé là, cette semaine. Maintenant, ils ont le droit de parole, ils peuvent voter à l'ONU. L'étape suivante, c'est un État. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est la mise en place de tous les ingrédients pour que Armageddon se déchaîne. Nous le savons, on savait que ça allait arriver. La France, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année? Bon, je ne vous fais pas le dessin, vous le savez très bien ce qu'ils vont faire l'année qui vient. Les événements se précipitent, mais la véritable Église de Jésus-Christ est limite le Maître, dispensant désormais deux sortes de messages. Un message exotérique destiné à tous et un message ésotérique destiné uniquement aux disciples. Et puis il y aura une étape suivante. L'étape suivante, c'est une œuvre choquante, telle qu'elle s'est produite dans Actes chapitre 5. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'écouter ce message sur Internet. Il n'est pas temps de s'amuser. David Wilkerson, juste avant de mourir, ce grand prophète, a dit « L'enlèvement n'est pas un amusement, ça n'est pas une plaisanterie. » C'est vrai, c'est pour maintenant. Nous sommes déjà dans le processus de l'enlèvement. La foule est renvoyée. Vous verrez, ce n'est pas seulement nous qui le faisons. D'autres fidèles vont le faire un peu partout dans le monde, et se retirer de plus en plus au pied du Maître pour l'écouter, pour faire ce qu'il faut faire, pour être ce qu'il faut être, laissant les autres qui font que de se moquer, qui font que de vouloir prendre, que de vouloir faire grossir leur ego. Non, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. C'est fini. On a assez fait, ça suffit. ça suffit. Que Dieu bénisse ceux qui écoutent ce message. Dieu a permis que vous l'écoutiez pour que vous puissiez être mis au courant de ces choses qui sont dites du cœur de Dieu au cœur de ceux qu'il aime. Amen. Merci Jésus de fortifier ce qui doit être fortifié. Merci Seigneur de bénir ce qui doit être béni. Merci Jésus d'étendre ta main sur chacun de nous et de nous tenir fidèles jusqu'à ce jour glorieux où nous quitterons cette terre pour aller à ta rencontre dans les lieux célestes. Merci Seigneur Jésus pour ce jour merveilleux. Beaucoup de gens sont troublés parce qu'ils croient que ça va être la fin du monde le 21 décembre. Ça ne sera pas, nous savons très bien, ça ne sera pas la fin du monde. Mais il est certain que pour tous ceux qui m'écoutent, plus le temps passe, moins leur existence a de chances de durer. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin du monde de chacun. Chacun aura un jour sa propre fin du monde. Soyez prêts, Jésus revient. Amen.